Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 11 concernant le salut. Aujourd'hui, nous aurons quelque chose un peu de particulier, c'est-à-dire, il vous faudra, enfin, vous pouvez noter autant d'indications bibliques que possible, car cela en vaut la peine. Mais pour ça, il faudra peut-être réécouter une deuxième fois. Chers frères et sœurs et chers amis, il existe 37 choses qui accompagnent le salut. Et nous allons les voir ensemble, c'est un peu pénible, mais on y arrivera. Premièrement, tous les chrétiens sont dans le plan éternel de Dieu et partagent la destinée de Christ. A, ils sont connus à l'avance. Et vous pouvez donc noter les indications bibliques. Actes, chapitre 13, verset 48, et Romains, chapitre 8, verset 29, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. B, ils sont élus. Romains, chapitre 8, verset 33, et Colossiens chapitre 3 verset 12 ainsi que 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4, Tite chapitre 1 verset 1 et la première épître de Pierre chapitre 1 verset 2. Ensuite, c'est ils sont prédestinés. Ils sont prédestinés. Romains chapitre 8, versets 29 et 30, ainsi que Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 11. D. Ils sont choisis. Saint Matthieu chapitre 22, verset 14. Et Éphésiens chapitre 1 verset 4. Et ils sont appelés. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 et Romains chapitre 8 verset 30. Deuxièmement, la personnalité de Dieu est satisfaite par tout. Les chrétiens, c'est la propitiation. Et là, vous pouvez noter Romains chapitre 3, verset 24, ainsi que la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 2. Troisièmement, tous les chrétiens sont rendus acceptables pour Dieu. A. Ils ont été rendus justes. Éphésiens chapitre 1 verset 6. Première épître de Pierre chapitre 2 verset 5. Romains chapitre 3 verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Et Philippiens chapitre 3 verset 9. B. Ils ont été sanctifiés en Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, chapitre 6 verset 11. C. Ils ont été rendus parfaits pour toujours. Hébreux chapitre 10 verset 14. D. Ils ont été formés pour être participants de l'héritage. Colossiens chapitre 1, verset 12. Et quatrièmement, tous les chrétiens ont été réconciliés à, par Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19, ainsi que Colossiens chapitre 1, verset 20, B, envers Dieu, ils ont été réconciliés envers Dieu, Romains chapitre 5, verset 10, et Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 17. Ensuite, cinquièmement, puisque évidemment, il y en a 37. Alors, cinquièmement, tous les chrétiens ont été rapprochés de Dieu. Saint Luc, chapitre 10, verset 20, et Éphésiens, chapitre 2, verset 13 et 19. Sixièmement, tous les chrétiens ont accès à Dieu. Tous les chrétiens ont accès à Dieu. Romains chapitre 5, verset 2, Éphésiens chapitre 2, verset 18, et Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, ainsi que le chapitre 10, verset 19 et 20. Septièmement, les péchés de tous les chrétiens ont été jugés en Christ. Les péchés de tous les chrétiens ont été jugés en Christ. Romains chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Huitièmement, toutes les offenses des chrétiens ont été pardonnées. Je répète, toutes les offenses des chrétiens ont été pardonnées. Éphésiens chapitre 1, verset 7, chapitre 4, verset 32, et Colossiens chapitre 1, verset 14, et le chapitre 2, verset 13. Neuvièmement, tous les chrétiens ont été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Je répète, tous les chrétiens ont été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Romains chapitre 3, verset 24, ainsi que le chapitre 5, verset 1 et verset 9. Et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, et Tite, chapitre 3, verset 7. Dixièmement, tous les chrétiens ont été rachetés. Tous les chrétiens ont été rachetés. Romains, chapitre 3, verset 24, Colossiens, chapitre 1, verset 14, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Onzièmement, la condamnation de tous les chrétiens leur a été ôtée. La condamnation de tous les chrétiens leur a été ôtée, enlevée. Saint Jean, chapitre 3, verset 18. Chapitre 5, verset 24, et Romains, chapitre 8, verset 1. Douzièmement, tous les chrétiens ont été régénérés. A, ils sont nés de nouveau. Saint Jean, chapitre 13, verset 10, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, Saint Jean, chapitre 3, verset 7, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. B. Ils sont enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, et Galates, chapitre 4, verset 6. D. Ils sont de nouvelles créations. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Galates, chapitre 6, verset 15, et Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Treizièmement, tous les chrétiens ont un esprit humain revivifié. Je répète, tous les chrétiens ont un esprit humain revivifié. Saint Jean, chapitre 3, versets 5 à 8, Romains, chapitre 8, verset 16, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Quatorzièmement, la vie éternelle, elle est donnée à tous les chrétiens. Je répète, la vie éternelle, elle est donnée à tous les chrétiens. Saint Jean chapitre 3, verset 15, chapitre 10, verset 28, et chapitre 20, verset 31. Quinzièmement, tous les chrétiens sont une lumière dans le Seigneur. Tous les chrétiens sont une lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 8, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Seizièmement, tous les chrétiens ont une fondation solide. Tous les chrétiens ont une fondation solide. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, chapitre 10, verset 4, Éphésiens chapitre 2, verset 20. 17. Tous les chrétiens ont été délivrés de puissance du péché. Tous les chrétiens ont été délivrés de la puissance du péché. Romains chapitre 2, verset 29. Philippiens chapitre 3, verset 3 et Colossiens chapitre 2, verset 11. 18. Tous les chrétiens sont morts à l'ancienne vie et ils sont vivants pour Dieu. Je répète, tous les chrétiens sont morts à l'ancienne vie et ils sont vivants pour Dieu. Là, vous pouvez noter A, ils sont crucifiés avec Christ, Romains 6, verset 6, et Galates, chapitre 2, verset 20. B, ils sont morts avec Christ. Et là, vous pouvez noter Romains, chapitre 6, verset 8, Colossiens, chapitre 3, verset 3, et 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. C. Ils sont ensevelis avec Christ. Romains, chapitre 6, verset 4. Et Colossiens, chapitre 2, verset 12. D. Ils sont ressuscités avec Christ. Romains, chapitre 6, verset 4. Et Colossiens, chapitre 3, verset 1. 19. Tous les chrétiens sont libérés de la loi. A. Ils sont morts à la loi. Romains chapitre 7, verset 4. B. Ils sont délivrés de la loi sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Chapitre 7, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Et Galates, chapitre 3, versets 24 et 25. 20. Tous les chrétiens ont été délivrés des puissances des ténèbres. Je répète, tous les chrétiens ont été délivrés des puissances des ténèbres. Colossiens, chapitre 1, verset 13, et chapitre 2, verset 1, plutôt chapitre 2, verset 15. Alors je répète, Colossiens 1, 13, et Colossiens 2, 15. 21e, tous les chrétiens ont été transportés dans le royaume de Dieu. Je répète, tous les chrétiens ont été transportés dans le royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 13. 22e, tous les chrétiens sont membres de la famille et de la maison de Dieu. Je répète, tous les chrétiens sont membres de la famille et de la maison de Dieu. Galates chapitre 6, verset 10 et Éphésiens chapitre 2, verset 19. 23e, tous les chrétiens ont été prédestinés à l'adoption, c'est-à-dire une filiation mature. Donc, tous les chrétiens ont été prédestinés à l'adoption, une filiation mature. Romains chapitre 8, verset 15 et verset 23, ainsi que Éphésiens chapitre 1, verset 5. 24e, tous les chrétiens ont un nouveau statut. Tous les chrétiens ont un nouveau statut. A, ils sont citoyens des cieux. Philippiens, chapitre 3, verset 20. B, ils sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. C, ils ont un rang supérieur à celui de tous les anges. Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Hébreux chapitre 1, verset 14. Romains chapitre 16, versets 19 et 20. 25e, tous les chrétiens ont une nouvelle position. Tous les chrétiens ont une nouvelle position. Et vous pouvez noter A, ils sont partenaires avec Christ dans la vie. Éphésiens chapitre 2, verset 6 et Colossiens chapitre 3, verset 4. B, ils sont ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. D, ils sont ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Et ils sont des lettres vivantes. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Et 3. F, ils sont serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. 26e, tous les chrétiens sont une génération choisie, un peuple qui appartient à Dieu. Je répète, tous les chrétiens sont une génération choisie, donc un peuple qui appartient à Dieu. Tite, chapitre 2, verset 14, et premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. 27e, tous les chrétiens sont prêtres. Notez A, ils sont un saint sacerdoce. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. B, ils sont un sacerdoce royal. Notez 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et Apocalypse, chapitre 1, verset 6. 28e, tous les chrétiens ont été glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. 29e, tous les chrétiens bénéficient des soins extrêmes de Dieu. Je répète, tous les chrétiens bénéficient des soins extrêmes de Dieu. Et vous pouvez noter A, ils sont l'objet de son amour. Romains chapitre 5, verset 9 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Chapitre 5, verset 2. Et la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 1. B, ils sont l'objet de sa grâce. Et ceci, on va noter, donc ils sont objets de sa grâce, premièrement pour le salut, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, deuxièmement pour être gardés, Romains 5, verset 2, et la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 5, troisièmement pour le service, Saint Jean chapitre 17, verset 18, et Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Et quatrièmement, pour l'instruction, Tite, chapitre 2, verset 11 et 12. C, ils sont l'objet de sa puissance. Éphésiens, chapitre 1, verset 19. Et Philippiens, chapitre 2, verset 13. D, ils sont l'objet de sa fidélité. Philippiens chapitre 1 verset 16 et Hébreux chapitre 13 verset 5. Et ils sont l'objet de sa paix. Saint Jean chapitre 14 verset 27. F, ils sont l'objet de sa consolation. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. G, ils sont l'objet de son intercession. Romains chapitre 8, verset 34, et Hébreux chapitre 7, verset 25, ainsi que le chapitre 9, verset 24. 30e, tous les chrétiens ont été débarrassés des effets dévastateurs et malsains du passé. Je répète, tous les chrétiens ont été débarrassés des effets dévastateurs et malsains du passé. Ésaïe 43, verset 25, chapitre 44, verset 22, Ézéchiel, chapitre 18, verset 1 à 4, et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 31e, tous les chrétiens sont l'héritage de Dieu. Je répète, tous les chrétiens sont l'héritage de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 18. 32e, tous les chrétiens sont un don de la part de Dieu au Fils. Tous les chrétiens sont un don de la part de Dieu le Père au Fils. Saint Jean chapitre 10, verset 29. Et chapitre 17, verset 2, verset 6 et verset 9. Et vous pouvez ajouter encore, toujours Saint Jean, chapitre 17. Chapitre 17. Pas seulement les versets 2, 6 et 9, mais encore les versets 11, 12 et 24 du chapitre 17 de Saint Jean. Nous arrivons à 33e. tous les chrétiens sont cohéritiers avec Christ. Tous les chrétiens sont donc cohéritiers avec Christ. Romains 8, verset 17, Éphésiens chapitre 1, verset 14, Colossiens chapitre 3, verset 24, Hébreux chapitre 9, verset 15, 1er Épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. 34e, tous les chrétiens sont unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je répète, car c'est important. Tous les chrétiens sont unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voyons un peu tout cela. A, ils sont en Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, Dieu en vous. Éphésiens, chapitre 4, verset 6. B, ils sont en Christ. Saint Jean, chapitre 14, verset 20, Christ en vous. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Premièrement, ils sont un membre de son corps. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Deuxièmement, ils sont un sarment dans la vigne. Saint Jean chapitre 15 verset 5. Troisièmement, ils sont une pierre dans l'édifice. Éphésiens chapitre 2 verset 21. Et on peut encore ajouter le verset 22. Ensuite, 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Quatrièmement, ils sont une brebis dans le troupeau. Saint Jean, chapitre 10, verset 27 à 29. Cinquièmement, ils sont une partie de son épouse. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Verset 25, donc, à 27. Sixièmement, ils sont un prêtre dans un royaume de sacrificateurs. 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Septièmement, ils sont une nouvelle création. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et c'est ils sont dans l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 9. L'Esprit en vous, selon Romains chapitre 8, verset 9. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 35e, tous les chrétiens ont reçu l'œuvre du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont reçu l'œuvre du Saint-Esprit. A, ils sont donc nés de l'Esprit, selon Jean, chapitre 3, verset 6. B, ils sont habités par le Saint-Esprit, toujours selon Saint Jean, chapitre 7, verset 39, et Romains, chapitre 8, verset 9. Et vous pouvez ajouter 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, chapitre 6, verset 19, Galates, chapitre 4, verset 6, et 1er Épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 24. C. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. D. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Et Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et le Saint-Esprit est l'assurance de leur héritage. Et vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et Éphésiens chapitre 1, verset 14. 36e, tous les chrétiens possèdent chaque bénédiction spirituelle. tous les chrétiens possèdent chaque bénédiction spirituelle. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Et pour terminer, 37e, tous les chrétiens sont complétés en lui, en Dieu. Tous les chrétiens sont complétés en Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 10. Bien entendu, tout cela n'est pas automatique. Et on a parlé de tous les vrais chrétiens, ceux qui sont leurs possibilités et leurs avantages en étant des vrais chrétiens jusqu'au bout. Parce que être des pseudo-chrétiens, tout ce que je viens de vous noter ou de vous faire noter, ne correspondra pas tellement. Et si en cours de route, vous quittez le chemin définitivement, ça arrive, heureusement, pas trop souvent, eh bien tout ce que je vous ai expliqué pour noter ou que vous avez essayé de noter ne sera pas une réalité vraiment sur laquelle vous pouvez compter. Il faut donc bien comprendre que tout cela n'est pas automatique. Du reste, malgré tout cela, malgré tout ce que j'ai essayé de vous faire noter, tous ne sont pas de véritables chrétiens. Ce qui voudrait dire, et je m'en excuse vraiment envers ceux qui ont été autrement enseignés, il y a chrétiens et chrétiens. Oui, il y a deux sortes de chrétiens. Georges Clémenceau a dit un jour, si tous les chrétiens de nom devenaient des chrétiens de fait, il n'y aurait plus de questions sociales. Savonarole était un fougueux prédicateur du XVe siècle. Lui, il proclamait qu'il y a deux sortes de chrétiens, ceux qui croient sincèrement en Dieu et ceux qui tout aussi sincèrement croient qu'ils croient. Mais c'est dans les moments décisifs qu'on les reconnaît, précisait-il. Dans le vocabulaire français, il n'y a pas de mot plus ambigu que le terme chrétien. Il signifie à la fois tout et rien. Tel dictionnaire, très usuel, le définit ainsi. Qui est baptisé et qui professe la religion du Christ, qui appartient à cette religion. Chrétien comme tout le monde. Oui, chrétien comme tout le monde. Êtes-vous chrétien? Demandait-on un jour à un de mes amis. Oh oui, comme tout le monde. Eh bien, dans ce cas, si vous êtes chrétien comme tout le monde, permettez-moi de vous dire que vous ne l'êtes pas du tout. Il y a trop de chrétiens de nom qui pensent que parce qu'ils ont été baptisés, catéchisés et qu'ils ont satisfait à certains rites, ils sont automatiquement chrétiens. Mais entre les chrétiens de nom qui pensent et les chrétiens de fait, entre les chrétiens qui croient sincèrement en Dieu et ceux qui sincèrement croient qu'ils croient quelque chose, il existe une différence considérable. autant qu'entre le jour et la nuit, ça veut tout dire. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais Dieu, lui, ne s'y trompe pas. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous croyons, mais ce que Dieu voit. Devenir chrétien, Tertullien, converti au Christ vers la fin du IIe siècle, avait écrit à des païens ceci. Autrefois, j'insultais la religion chrétienne comme vous le faites aujourd'hui. Nous avons tous été des vôtres, car on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Je répète, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Affirmation péremptoire. Pour être chrétien, il faut d'abord le devenir, non pas par un endoctrinement ou un embrigadement, non pas par des rites religieux, non pas non plus en se recouvrant d'un vernis de christianisme. Il faut devenir chrétien. Mais comment ? Eh bien, par la conversion personnelle de tout son être à Jésus-Christ. Il faut en premier lieu sentir sa profonde misère, son indignité, ses faillites, son péché face à Dieu qui est saint. Il faut se repentir de tout cœur et puis recevoir Jésus-Christ comme sauveur, croire que lui seul sauve et transforme la vie. Il faut tenir pour certain qu'il a porté notre condamnation sur la croix, attestant le pardon divin et nous communiquant la vie éternelle. Dès lors, par l'action du Saint-Esprit, on meurt à son vieux genre de vie et on naît à une vie nouvelle. On est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Paix et joie inondent notre cœur. Nous connaissons enfin le vrai bonheur. Nous vivons sous l'action du Saint-Esprit en conformant notre vie au code de Dieu, je veux dire la Bible. Il y en a qui disent, eh bien, cela en vaut-il vraiment la peine? Certainement, chers amis. C'est l'aventure la plus merveilleuse que vous puissiez jamais vivre. C'est le bonheur le plus réel que vous puissiez connaître. C'est l'expérience la plus sublime que vous puissiez goûter ici-bas. Par la foi en Jésus-Christ, vous aurez le pardon, la libération de toute passion, de tout esclavage, la confiance en la toute-puissance de Dieu, l'espérance glorieuse du ciel, l'amour, la joie, la paix, la vérité, la vie dont vous êtes assoiffé. Une personne malheureuse disait « Oh, je donnerai tout ce que je possède pour recevoir le bonheur que vous avez. » Eh bien, commencez par donner au Christ votre cœur, votre âme, toute votre vie. Faites-le maintenant en lui disant tout simplement « Seigneur, je veux vivre non plus comme un chrétien de nom, ni comme un incrédule, mais je veux vivre comme un chrétien de fait. Je crois en toi. Je te donne toute ma vie. Purifie-moi de mes péchés et transforme-moi. Je te reçois comme mon sauveur. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Je crois que tu es vivant et je veux t'aimer et je veux te suivre. Alléluia. Chers amis, nous allons terminer par la prière, mais j'aimerais vous simplement vous faire noter dans votre cœur et votre esprit un petit cantique, une strophe d'un cantique d'autrefois, il y a fort longtemps. Ensuite, nous prierons ensemble. Brillante étoile du matin, accorde-nous un jour serein, un jour de paix, de grâce, comme une aurore dans nos cœurs, répands tes divines splendeurs et ta douce efficace. Agneau, flambeau de ma vie, je te prie, viens, éclaire tous mes pas de ta lumière. Prions. Ô Dieu, notre Père, apprends-nous à répandre nos cœurs devant toi, à t'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton saint nom, à t'apporter chaque jour nos difficultés, nos faiblesses, et à chercher auprès de toi seul le secours et la force. Préserve-nous, Seigneur, de nous confier en nous-mêmes ou de nous appuyer sur le bras de la chair, mais que par une foi vivante, nous nous attachions à toi, qui es le rocher de notre cœur et notre partage à toujours. Rends-nous fidèles à chercher le secours toujours présent que tu nous offres, à saisir la main que tu nous tends, afin qu'appuyés sur toi, nous puissions traverser toutes les circonstances de la vie dans la paix et la reconnaissance. Tu sais ce qui nous attend pendant cette journée. Nous savons une seule chose, c'est que celui qui a donné son Fils nous donnera aussi toutes choses avec lui. C'est que tu veux notre bien, le bien éternel de nos âmes, et que tu fais concourir toutes choses au bien de tous ceux qui t'aiment. Que dans cette pensée, Seigneur, nous nous avancions dans la paix, recevant toutes choses de toi et les rapportant toutes à toi. Reçois nos actions de grâce et notre adoration. Sanctifie le culte que nous te rendons et que ta grâce et ta paix demeurent avec nous pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen.